Voilà, alors ça c'était du taiko, c'est-à-dire les tambours japonais, un peu différents de ce que les Européens connaissent comme les tambours sacrés ou les tambours du diable de l'île de Sado, qui sont joués par des hommes. Ça, contrairement à la coutume japonaise, c'est des tambours qui sont joués par des femmes. Et le leader de ce groupe, qui s'appelle le groupe Miyarabi, c'est une femme qui s'appelle Kimiko Kawada, qui vient d'Okinawa. Rappelez-vous son nom. Alors voilà, je vais essayer de vous parler du Japon, ou plutôt des japonaises, des femmes japonaises et des féministes japonaises que j'ai rencontrées là-bas pendant mon voyage de plusieurs mois. Faut dire que j'ai été assez surprise, assez durement surprise quand je suis arrivée là-bas, parce que je m'attendais à une chose, et puis naturellement, le Japon, de loin, c'est pas ça. Je crois qu'on se rend mal compte ici, d'après les nouvelles qu'on peut glaner dans les journaux ou dans les bouquins qu'on lit, de ce que c'est le Japon, de comment il est considéré dans le sud-est asiatique. C'est vraiment une superpuissance. C'est la puissance économique et politique. C'est le pays qui a les rapports impérialistes avec les autres pays du sud-est asiatique, c'est-à-dire la Thaïlande, le Taïwan, la Philippine et la Corée, un peu semblable au rapport que les États-Unis pourraient avoir avec l'Amérique latine. Les États-Unis, d'ailleurs, dont les Japonais sont des fervents admirateurs et des émules. Les Japonais disent d'eux-mêmes qu'ils adaptent, deviennent adeptes et ensuite ils adoptent. Et c'est vrai qu'on voit tout ce qui est américain là-bas, qui est fait un petit peu mieux par les Japonais, qui sont des gens assez arrogants, assez pleins d'eux-mêmes, qui se croient vraiment le nombril du monde. Alors, au départ, c'est une structure à pyramide, une structure très très collective, c'est-à-dire l'empereur en haut, ou l'empereur au centre plutôt. Et puis, comme émissaire de l'empereur, il y a le patron. Presque tous les hommes sont ce qu'on appelle des company men. Ils ont des contrats à vie. Ils travaillent 80 à 100 heures par semaine, tard le soir. Et les femmes représentent une toute petite minorité du marché du travail. Et en général, à part les marchandes, la plupart d'entre elles, tant qu'elles sont jeunes, c'est-à-dire tant qu'elles ont 25 ans, elles peuvent travailler comme secrétaires. C'est des secrétaires qu'on appelle d'ailleurs des fleurs qui se fanent vite, parce que, plus que secrétaires, elles versent le thé, puis elles sont jolies. Et dès qu'elles sont pas jolies ou considérées moins jolies, un peu fanées, on les renvoie chez elles. Les renvoyer chez elles, c'est les renvoyer au mariage, qui est encore la seule voie pour à peu près 85% des femmes japonaises. Et j'avais été très, très surprise de voir dans les trains dans lesquels les Japonaises et moi, on passe des heures entières chaque jour pour aller et venir dans la ville, qu'à peu près 40 à 45% de la pub est une pub par rapport au mariage, au grand mariage en blanc ou au grand mariage en kimono japonais traditionnel, qui est le rêve de toute jeune fille.
Mais alors, en fait, il y a les femmes mariées ne travaillent pas. Elles travaillent avant de se marier.
Oui. Elle travaille avant de se marier, ensuite elle se dédie complètement à la famille et aux enfants. Il y a des psychologues et des psychiatres, des psychanalystes européens et japonais qui sont penchés là-dessus. C'est effectivement la femme là-bas qui est celle qui va modeler l'enfant. Le père est pratiquement absent. Il sort du boulot. C'est en général les hommes et les hôtesses de bar qui prennent ce qu'on appelle le dernier train de 11 h du soir. Ils arrivent en général, les enfants sont couchés. Ils repartent le matin très très tôt parce qu'ils ont entre 2 h et 3 h de train pour aller sur le lieu de travail. Et ils voient les enfants en général que le dimanche, puisque la plupart du temps, ils travaillent le samedi aussi. Donc c'est vraiment les femmes qui sont. Oui, elles sont complètement dans la famille. C'est une société assez, assez partagée, je trouve. Il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Différemment que les sociétés musulmanes, avec beaucoup, beaucoup de politesse, avec ce visage très impénétrable, mais effectivement, il y a très peu d'endroits et de façons de faire contact. Alors, certaines femmes. Celles de classe plus ouvrière ou plus pauvre, qui n'ont pas l'éducation nécessaire pour être secrétaires, elles deviennent hôtesses dans ces milliers et milliers de bars où les hommes vont boire leur saké et leur bière après le boulot. Et là, elles retrouvent leurs consœurs qui viennent des autres pays du sud-est asiatique, des femmes qui viennent effectivement de Taïwan, surtout de Philippines et de Corée, parce que c'est des pays beaucoup plus pauvres. Et même si elles sont très, très mal payées, elles peuvent gagner un petit peu plus que ce qu'elles pourraient gagner dans leur pays. Un petit peu plus, c'est-à-dire qu'elles sont payées environ 1000 yens par jour, c'est à peu près 10 francs par jour.
Et on vit avec 1000 yens par jour?
Non, elles vivent à 10 ou 12 dans une chambre qui est en général au-dessus du bar, qui est payée et donnée par la propriétaire du bar. Les 1000 yens, elles vont directement à leur famille en Taïwan, aux Philippines ou en Corée. Alors, c'est assez bizarre parce que d'un côté, c'est un pays qui a l'air d'être un pays très, très civilisé, économiquement à l'avant-garde, même des États-Unis. Et puis là-dedans, on retrouve surtout pour les femmes vraiment des traditions millénaires qui restent encore. Effectivement, dans la rue, d'un côté, c'est très, très beau à voir, ces vieilles femmes dans les kimonos et qui marchent avec les guettas, ces socs-là. Et puis, vers 5 heures du soir, dans les trains, on voit aussi les geishas et les maiko, toutes peintes et avec ces kimonos en fleurs, qui s'apprêtent à prendre le train pour aller sur les lieux de travail, dans les bars. Mais après, plus on connaît cette société, et plus, je crois, pour une femme occidentale, et surtout pour une féministe occidentale, il y a une part de révolte, une part de colère, parce que je pense que, plus que toute autre femme dans le monde, elles ont beaucoup de mal à s'en sortir, elles ont beaucoup de mal à secouer les chaînes. Et ça, c'est très bizarre, parce qu'en même temps, c'est... Je suis quelqu'un qui suis très intéressée par la mythologie, surtout les histoires de femmes. Le Japon est le seul pays où le soleil est une figure féminine, une figure de femme. Elle s'appelle Amaterasu. C'est une femme très, très puissante qui a un petit mari qui est la lune, qui est un petit jeune homme très timide qui se cache. Et le premier empereur, c'était une femme. Mais malgré tout, c'est aussi, comme la Chine, un pays où les femmes ont eu les pieds bandés et déformés jusqu'à pas, il n'y a pas très longtemps, quoi. Et c'est assez dur de voir ça parce que les Japonaises ont été obligées, et même les féministes d'une certaine façon, d'intérioriser beaucoup et d'accepter, parce que la structure sociale est tellement forte, est tellement rigide, tellement codifiée, d'accepter. Moi, ce qui m'a frappée au début, c'était la posture, les mouvements. Les femmes, quand elles rient, se mettent toujours la main devant la bouche. Une soumission, une passivité, presque un masochisme dans la façon d'être dans la rue ou dans les trains, une façon de ne pas prendre son espace qui pour nous, femmes d'Occident, est très très dure à supporter au bout d'un moment. Et pour ça, je voudrais vous faire écouter un morceau de shamisen. Le shamisen, c'est une espèce de viol qui sont joués dans ce cas précis par des femmes qui s'appellent les femmes gozées de Takada. C'est des femmes aveugles qui ont été abandonnées toutes petites filles à l'âge de 2-3 ans parce qu'elles étaient aveugles et qui ont été recueillies par des gozées, donc des femmes aveugles plus âgées qui ont pris soin d'elles et leur ont appris à jouer le shamisen qu'elles jouent dans la rue pour avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Alors voilà, le shamisen par les femmes gozées. langue japonaise traditionnelle, par exemple, il n'y a pas de mot pour dire « je t'aime », en tout cas pas pour la femme. La femme mariée, quand elle veut dire « je t'aime » à son mari, elle dit « écoutez bien, je ne suis pas en colère avec toi ». Alors, c'est tout un programme. Ça, c'est la femme mariée. De l'autre côté, comme je vous ai dit, il y a ces hôtesses qui servent plus ou moins nues dans les bars. Il y a une pornographie. Rien que la pornographie, je pourrais vous en parler une heure. On lutte contre la pornographie dans le monde occidental et c'est une pornographie violente. Et cette pornographie japonaise qui est masochiste et faite de passivité, de liens, je crois qu'elle est pire. Et en plus de ça, non seulement il y a des centaines et des centaines de journaux porno, mais dans le journal quotidien que monsieur achète une ou deux fois par jour, il y a chaque fois, à côté des pages de sport, une photo porno qui est en général d'une femme écartelée, violée, liée, etc. Et ça, lu par des gens qui sont cravatés en chemise longue même l'été, à chemise à manches longues même l'été, et qui... pour qui le moindre décolleté ferait scandale dans le train. Ces mêmes hommes, d'ailleurs, ces mêmes company men, reçoivent comme bonus pour leur travail d'heures supplémentaires des voyages dans les pays proches qu'on appelle des voyages sex-tourisme. C'est-à-dire ils sont envoyés gratuitement dans un hôtel pendant 4-5 jours à Manille, par exemple, ou attend une prostituée dans sa chambre. Et ils y vont par 200 ou 300. Alors, bon, ça, c'est le côté de femmes de la rue. Moi, j'étais quand même allée pour chercher un petit peu s'il y avait un mouvement féministe. Et je dois dire à ma grande honte que je ne m'étais pas rendu compte, un peu naïvement, que le mouvement féministe là-bas est aussi vieux que le nôtre. C'est-à-dire que depuis 14 ans, il y a un mouvement féministe nouvelle vague. Mais il y a aussi, par exemple, un journal féministe qui existe depuis 39 ans. Et il y a une vieille féministe qui célébrait l'année dernière ses 99 ans. Elle s'appelle Nokami Yaeko et qui est encore en train d'écrire de sa propre main son autobiographie. Il y avait un moment très, très fort du mouvement féministe, comme chez nous en 72-75. Mais... maintenant, c'est des groupes un peu fragmentés comme les nôtres, avec assez peu de relations les unes avec les autres. Et aussi un petit peu comme chez nous, un peu fatiguées de lutter parce que c'est toujours les mêmes. Elles se battent en général sur 3 points et en plus sur le racisme, point sur lequel elles rejoignent d'autres groupes militants. Il y a un groupe qui s'appelle Joki, et un groupe sur le droit au travail. Le droit au travail et la discrimination au travail. Dans la Constitution, il n'y a rien qui dise que le travail de la femme n'est pas légal du travail de l'homme, mais les patronats et les quelques syndicats qui existent n'appliquent absolument pas cette Constitution. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le même droit au travail et au même boulot, ils n'ont certainement pas droit au même salaire pour les mêmes boulots, et les rares fois qu'il y a des femmes prêtes à lutter devant la justice pour établir cette égalité des droits, je connais 6 femmes qui luttent depuis 7 ans parce que leur compagnie avait décidé qu'une femme ne pouvait pas être bibliothécaire et que donc elles étaient devenues secrétaires, avec un salaire beaucoup plus petit, bien sûr. Et ça se répercute jusque dans la retraite, parce que bien sûr, à ce moment-là, les rares femmes qui vivent seules, qui ne sont pas mariées, ou les rares femmes qui divorcent, se retrouvent avec des retraites minuscules. Ça, c'est ce qui se passe dans les villes, dans les campagnes, dans les fermes, c'est encore plus dur, bien sûr. Alors maintenant, je voudrais vous passer une chanson... d'une femme, d'une féministe, d'une chanteuse féministe qui s'appelle Mariko Kobayashi. La chanson s'appelle Benjo, c'est le mot japonais pour dire toilette, et elle est en train de hurler « Je ne suis pas ta toilette, je ne suis pas tes WC, tu ne peux pas te vider de moi, en moi, de tous tes poisons. » Mariko Kobayashi chante Benjo.
Oh, no, Benjo. を叩き私を求めるかベンジャーベンジャーベンジャー夜が済んだら出て行くだけよベンジャーベンジャーベンジャー綺麗な女は家のベンジャー花を飾り磨いてもらえるそれでもやっぱり男のベンジャーベンジャーベンジャーベンジャーちやほやされても便器は便器便器便器女便器私らブスは駅のベンジャー乗っても掃除もされない詰まるように詰まってもベンジャーや思うだけど出すもんさえ出してしもたら臭いもんでも見るような冷たい目をして去るだけよベンジャーベンジャー女ベンジャーあだからベンジャーベンジャーベンジャーベンジャーベンジャーベンジャーベンジャーベンジャー激しく戸を叩き私を求めるかベンジャーだけよベンジャーベンジャーベンジャーベンジャーベンジャー
qu'elle dit Mariko Kobayashi, c'est-à-dire je suis pas tes toilettes, je suis pas tes WC. Il y a une autre chanson d'elle que j'aurais voulu vous passer, mais elle est très très triste et très très longue, et je pense que j'aurais pas la place aujourd'hui. C'est une chanson qui s'appelle « L'avortement et le drapeau ». Et dans cette chanson, elle dit « Femme avortée, pensez que quand vous saignez, que quand vous perdez l'enfant dont vous avez dû avorter, la tache rouge du sang, c'est la tache rouge qu'on retrouve dans le drapeau japonais. » Parce qu'effectivement, le drapeau japonais, c'est donc une surface blanche dans laquelle il y a un beau cercle rouge. Et je pense que c'est une revendication, c'est pas mal. C'est toutes les femmes avortées, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Japon, pensaient que le drapeau japonais représentait leur souffrance et leur manque de liberté. Alors, je vais vous raconter un petit peu la situation de l'avortement au Japon, parce qu'elle est vraiment pas très belle. C'est surtout le groupe Soshiren qui se bat là-dessus, qui se bat pour l'instant, d'une certaine façon, c'est un peu bizarre, pour que la loi sur l'avortement ne soit pas changée. Et pourtant, cette loi sur l'avortement, elle n'est vraiment pas libérale, mais pour l'instant, ils essayent de la rendre encore pire. Donc, l'avortement est illégal au Japon. Il y a une loi de 1880 qui interdit l'avortement. Mais en 1948, la Constitution a fait une loi qui s'appelle la loi de protection eugénique, qui est une loi raciste, c'est une loi fasciste, qui a trois clauses. Un avortement est possible pour des raisons eugéniques, c'est-à-dire pour prévenir la naissance en cas d'une possibilité de déformité mentale ou physique. La deuxième, c'est s'il y a eu viol, et la troisième pour des raisons économiques. Et c'est en général en utilisant cette troisième raison que la femme arrive à se faire avorter. Mais pourtant, elle voudrait que cette loi soit changée parce que, en fait, c'est une loi qui dit que la race japonaise doit être belle et pure, que toute personne qui a une possibilité de déformation mentale ou physique ne devrait pas vivre, ne devrait pas avoir la possibilité de naître. Et c'est un groupe qui est allié effectivement avec les handicapés physiques pour se battre là-dessus, parce qu'on trouve dans les rues où on vend les journaux des petits feuillets qui expliquent aux femmes et aux hommes qui vont se marier quelles sont les questions qu'ils doivent poser à leur belle famille pour découvrir s'il y a une possibilité de tare héréditaire, physique ou mentale, ou même une tendance à la délinquance. Et c'est bon, ça a des relents de nazisme quelque part. Alors, elles sont en train de se battre pour que cette loi, pour l'instant, ne soit pas, on n'enlève pas la clause numéro 3, parce que pour l'instant, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas assez d'enfants qui naissent, pas assez de petits soldats et d'ouvriers. Mais elles voudraient naturellement la loi, un avortement libre et sur demande et gratuit, comme toutes les femmes du monde entier. Il faut dire que la situation sur l'avortement n'est qu'un reflet de la situation de la gynécologie et un reflet aussi de la contraception pour celles qui sont intéressées à la santé des femmes. La contraception pour les femmes est interdite. C'est-à-dire, la pilule est interdite, elle n'est donnée que pour des raisons dermatologiques ou pour des règlements hormonaux. Le diaphragme, la plupart des médecins ne les connaissent pas ou refusent de les prescrire. Il y a maintenant un groupe dirigé par une femme japonaise revenue des États-Unis qui bourlingue dans toutes les îles japonaises en expliquant l'utilisation du diaphragme et qui réussit de temps en temps à en avoir quelques-uns qu'elle peut vendre aux femmes. Les stérilets, de la même façon, la plupart des médecins refusent de les mettre. Alors la contraception, eh ben, la 80% elle est faite avec l'utilisation des préservatifs, ce qui d'un côté a du bon, parce que pour une fois, ce n'est pas la femme qui doit se payer le prix de la contraception, mais ça veut dire qu'elle est à la merci de son mari s'il est sous et qu'il ne veut pas mettre un contraceptif, un préservatif, c'est un gosse de plus, et dans ce cas-là, c'est elle qui doit se faire avorter.
C'est quoi le taux de natalité au Japon ?
Alors là, tu me poses une question que je ne sais pas.
Disons, tu voyais des grandes familles ou des petites familles ?
Non, je pense que c'est en général 2 à 3. Mais c'est quand même une société qui veut avoir des garçons. C'est-à-dire que si le garçon est le premier ou le deuxième, ça va. Si c'est des filles, la famille a tendance à continuer jusqu'à ce qu'il y ait au moins un garçon. Dans les campagnes, les familles sont plus grandes parce qu'elles vivent plus en clan. La ferme est prise en charge par tout le groupe. Et dans ce cas-là, j'ai vu des familles de 6 à 7 enfants. Mais pour la plupart, c'est entre 2 et 3, je pense. Alors, ce qui m'avait surpris aussi, étant donné que moi, je suis intéressée au mouvement santé des femmes, c'est qu'il n'y a pas de groupe santé au Japon. Et pourtant, Dieu sait qu'au niveau de la médecine des bonnes femmes, aussi bien acupuncture ou ce qu'on appelle kampoyaku, c'est-à-dire la médecine des herbes, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup à utiliser. Il y a un tout petit peu de connaissances qui viennent des États-Unis. Il y a 2 ou 3 petits groupes ici et là, mais elles n'arrivent absolument pas à joindre leurs forces. Je commence à connaître maintenant des femmes qui font des écoles d'acupuncture et qui... ayant entendu parler du dispensaire des femmes ici à Genève, se disent que peut-être dans 4 ou 5 ans, elles arriveront à ouvrir une clinique d'acupuncture pour femmes. Avant de continuer sur un autre point de lutte des féministes, je voudrais vous faire écouter par ma copine Sumie Watsuki, une féministe de longue date et chanteuse féministe aussi, une chanson qui s'appelle « Watashi », c'est-à-dire « Pour moi-même » et qui dit « Je suis à moi-même, je m'appartiens ».
Thank you.
「わかりなさい尊敬しない」